sans effet. Ouvre nos cœurs, Seigneur, qu'elles puissent pénétrer nos cœurs, que ce soit tes mots, que ce soit tes mots sur ma bouche, Seigneur, que ce soit ton esprit qui intervienne, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce qui est important, Seigneur, c'est que toi, tu puisses parler à nos cœurs. C'est toi que nous voulons entendre pour la gloire de ton nom, Seigneur, seulement pour la gloire de ton nom. Sois glorifié au milieu de nous, Seigneur. Amen. Amen. Il marche. Un, deux, ça marche?
Oui.
Waouh, super. Bon, on va y arriver. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, et ça vous le savez, cet après-midi. Mince, mince. Oh là, comme on a des mécanismes hein, qui sont bien installés, hein. Ça c'est sûr. Donc, l'origine de cette terre. Dieu a créé ce monde. Il a fait de ce monde un écrin où il a placé l'homme et la femme dedans. Vous voyez ce que c'est un écrin? Un écrin, c'est un coffret en cuir avec de la feutrine dedans où on met des beaux bijoux pour les garder. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a donné une nature extraordinaire, un lieu incroyable, et pourtant, les choses ne se sont pas très bien passées puisque on sait que Adam et Ève ont péché, que l'entrée du péché dans la création de Dieu a pollué celle-ci, l'a corrompue, c'est-à-dire qu'elle a amené la mort. Sans le péché, avant le péché, la mort n'existait pas. Elle a amené la peur et l'insécurité. Et je réfléchissais à tout ça. Et puis, c'est marrant, il y a une parabole de Jésus qui est venue dans mon esprit. C'est la parabole du blé et de l'ivraie. Dieu a semé la bonne semence dans sa création. Ce sont les fils du royaume. C'était l'homme et la femme. Et le diable est venu et a semé l'ivraie. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ça? Alors, je sais que Alain et Karine sont... Oh, on a déjà entendu ça. Cette semaine, on a parlé de ça, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Je vais juste introduire ça comme ça. Le diable a donc semé l'ivraie. Le blé et l'ivraie, ce sont des graminées. L'ivraie, c'est une graminée sauvage, toxique. À haute dose, elle est mortelle. Elle vous tue. Faut savoir. Hein? Alors je suis allé quand même creuser un petit peu en me disant, l'ivraie, c'est quoi exactement? Alors j'ai découvert son nom latin, ça s'appelle l'olium, mais ça a été ma grande surprise quand j'ai appris que ça s'appelait la zizanie aussi. Intéressant, hein? Vous qui êtes des littéraires qui aimez les romans et tout ça, la culture française, alors on va se plonger un petit peu dedans. Moi j'aime beaucoup, j'ai deux écrivains dessinateurs favoris, c'est Goscinny et Uderzo. Vous connaissez ça? Qu'on crée une super série qui s'appelle Astérix. Hein? Alors, dans cette série de bande dessinée, dans cette bande dessinée-là, il y a la zizanie. Et la zizanie, c'est une bande dessinée extraordinaire. Alors, vous savez ce que c'était Astérix, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, ce sont des rebelles gaulois qui tiennent tête à l'Empire romain, pas moyen de soumettre ce village gaulois. Pourquoi? Parce qu'ils ont un secret, ils ont la potion magique. Et grâce à la potion magique, ils tiennent tête à ces Romains. Alors ils ont essayé de diverses choses, pour diverses manières, pour essayer d'anéantir ce village, ils n'y arrivent pas, les pauvres. Alors là, ils réfléchissent et se disent, peut-être qu'on va pouvoir les avoir. Alors, ils ont un phénomène chez eux, un romain, qui s'appelle, tenez-vous bien, Tullius Detritus. Et Tullius Detritus, C'est le gars, partout où il passe, c'est le bazar. Partout où il passe, les gens se disputent, sont pas contents, ça râle et tout ça. C'est un semeur de zizanie. Alors les Romains, ils disent, avec ce gars-là, on va y arriver. Pourquoi ? Parce que si on l'envoie dans le village des Gaulois, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être la zizanie ? Les Gaulois dissidents vont commencer à se bagarrer les uns avec les autres, et nous, ça sera facile, on va gagner le village. Dans l'histoire, ça finit pas comme ça, mais j'aime bien cette image que je suis en train de vous raconter là. Parce que c'est exactement ce que le diable a fait. Le péché, l'ivraie qu'il a semé dans le cœur des hommes, la zizanie qu'il a semé dans le cœur des hommes, la corruption. C'est une réalité, c'est bien là. Alors, la question c'est de savoir, parce qu'on le sait tous, comment combattre l'ivraie. Nous, qui croyons en Jésus, on est particulièrement à l'abri de l'ivraie, parce qu'on repose sous ses ailes, on est sous sa protection, il nous garde. Cependant, il arrive parfois à insinuer la zizanie même parmi les chrétiens. Alors quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut surtout pas rester là-dedans. Hein ? Vous savez, il y a des gens que j'appelle toxiques. C'est des gens, quand vous les rencontrez, ils ont toujours une critique à faire à l'égard de quelqu'un. Ils sont toujours en train de râler contre quelque chose. Et voilà, quoi. Vous êtes 10 minutes avec eux, vous êtes fatigué. Ça fatigue. Hein? Et donc, il ne faut pas absorber ces choses-là quand elles viennent vers nous. Mais il va falloir faire front. Alors, on a quand même une arme qui est assez efficace. C'est la foi. Et vous savez que la foi, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Paul, je le dis souvent, à la fin de sa vie, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Et ça, c'est la chose la plus importante dans notre vie, c'est de garder la foi. Peu importe par les chemins par lesquels vous passez, le rôle que nous avons, la responsabilité que nous avons, c'est de garder la foi. Et pour garder la foi, il y a quand même certaines choses à faire. Hein? Parce que la foi, Dieu nous l'a donnée. Mais la foi, si tu ne lui donnes pas à manger, elle a tendance à dépérir. Comme ton corps. Si tu t'abstiens de manger, moi ça me ferait du bien, une quarantaine de jours, ça devrait aller. Je perdrais quelques kilos. Mais le problème, c'est que je remange après, je reprends des kilos. Donc c'est, voilà. Mais si on arrête de manger et de boire, on meurt. C'est une réalité. On est tous soumis à cette chose-là. Donc la foi, c'est pareil. Et la Bible nous dit quand même quelque chose d'intéressant. C'est, vous allez me dire le verset, elle vient de où la foi ? Voilà, la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la parole de Christ, c'est quoi ? C'est les Écritures. Il est la parole. Et on a besoin réellement de se nourrir de cette parole quotidiennement. Ce n'est pas simplement une fois le dimanche, passe la semaine, ou peut-être une fois à Noël ou à Pâques pour certains. Ils disent c'est bien assez, c'est bien suffisant. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi on a besoin de la parole ? Parce qu'on va passer par des tribulations et des combats. Et au travers de cela, au travers de la parole, il y a les promesses de Dieu. Et les promesses que Dieu nous a laissées, c'est autant de flèches pour combattre l'ennemi, autant d'armes puissantes pour détruire l'ennemi dans notre vie qui voudrait qu'on perde la foi. Donc, on va voir un petit peu dans la parole, les promesses que Dieu nous a laissées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible, elle en contient beaucoup. Et elle couvre chaque domaine de notre vie. Ça, c'est une réalité. T'as un souci, cherche ta promesse. Va creuser dans la Bible. Cherche par rapport à ton souci, qu'est-ce que Dieu dit. Et Dieu va répondre à ça. Vous savez que c'est David Wilkerson. Vous connaissez David Wilkerson? Il a répertorié les promesses de Dieu. Vous savez combien il y en a dans la Bible? 866. 866 promesses. Ça veut dire au moins 2 promesses par jour pour chacun de nous. C'est pendant une année. C'est extraordinaire. Et c'est une réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est bon et désire donner de bonnes choses à ceux qui viennent avec lui dans la foi, avec la foi. Si on va dans 1 Roi 8:56, voilà. Ah, c'est bien, je ne me suis pas trompé. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple, Israël, conformément à toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet. Aucune des paroles de Moïse, des promesses que Dieu, au travers de Moïse, avait dit au peuple d'Israël, toutes ont eu un effet. Aucune n'est restée sans effet. Parce que Dieu ne parle pas à la légère. Quand Dieu donne une promesse, alors combien plus forte à nous ? Le peuple de Dieu à l'époque, bien sûr, c'était Israël, mais on n'est plus sous la loi. On est passé sous la grâce. Et qui est le peuple de Dieu aujourd'hui ? Ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui sont nés nouveaux, qui ont rencontré Jésus un jour dans leur vie, c'est nous. C'est le peuple de Dieu, nous qui sommes réunis ici. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce que Dieu dit, chacune de ses promesses ne passera pas sans effet. Ça, c'est sûr. Psaume 31 au verset 20. Voilà. Ô combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Voilà. Moi, j'ai une autre version qui dit combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent. Parce que craindre Dieu, c'est pas avoir peur de lui, mais c'est le vénérer. Ça, c'est important de l'avoir en tête aussi, de se dire que, voilà, quand il est question de craindre Dieu dans la parole, c'est d'avoir de la vénération pour lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de la vénération pour lui? D'avoir un cœur pour lui, de le reconnaître pour ce qu'il est, de se soumettre à lui, de le louer parce qu'on sait qu'il est grand, qu'il est extraordinaire. C'est ça, vénérer Dieu. C'est ça, le craindre, entre guillemets. Donc lorsque nous traversons des difficultés, en lisant tout ce qu'on vient de lire, il tient en réserve des bonnes choses, des promesses, des bénédictions pour ceux qui le vénèrent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, ce qu'elle dit, c'est la vérité. On peut réellement s'appuyer dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire lorsque je traverse des difficultés? Est-ce que nous allons chercher les promesses que Dieu veut nous donner? Ou bien, est-ce que nous nous lamentons? On peut faire ça aussi. Oh Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Hein, on peut se lamenter. Jérémie s'est beaucoup lamenté. Il y a même un livre qui s'appelle « Les Lamentations de Jérémie ». Donc on peut se lamenter. Dieu ne va pas nous détruire à cause de ça. Mais il y a d'autres moyens que de se lamenter. Il y a des personnes, quand ils ont des difficultés, ils vont chercher auprès des autres hommes qu'ils connaissent, qui pourraient éventuellement les aider. Ça a la force que ça a, et ça dure, et ça donne ce que ça donne, mais je crois que ça ne va pas très loin, souvent. Et parfois, on est déçu, on se dit, ah oui, je croyais que c'était mon frère. Je lui demande quelque chose, il n'est même pas capable de me donner. Voilà, décevant, ça peut être décevant. Ou bien, la troisième solution, c'est est-ce que nous allons creuser la parole de Dieu à la recherche de ses promesses? C'est ça qui est important. Parce que Dieu a des promesses pour tout. Si je prends le domaine de la santé, le psaume 107, les versets 19 à 20, il nous a dit ceci. C'est donc des gens qui étaient dans la détresse. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Le verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. C'est sa parole qui nous guérit. Moi, je me rappelle d'une situation un peu particulière où j'étais pas tranquille. Parce qu'un milieu d'insécurité. Et puis je priais. Puis je disais, Seigneur, mais tu vois, je suis inquiet. Je sais pas ce qui se passe. Et Dieu m'a envoyé sa parole. Et lorsqu'on reçoit sa parole, l'inquiétude disparaît. L'inquiétude n'est plus. On sait où on va, on sait que quelqu'un est là, on sait que sa parole, il l'envoie, il nous guérit, il nous délivre de la fosse. Et ça aussi, c'est une vérité. Mais sur qui allons-nous chercher ces bonnes choses? En creusant la parole de Dieu, en s'appuyant sur la parole. Moi, je me rappelle, il y avait un... C'est à très longtemps de ça. Ça remonte à 1978, c'est pour vous dire. Ça faisait 2 ans que j'étais chrétien. Et puis, je vais à une grande convention. Et il y a un homme qui vient, c'est un Indien, c'est en Suisse, ça se passe en Suisse. Il y a plein de monde, c'est une grande conférence. Et le gars, il vient sur la scène, et puis il commence à parler, donner son témoignage, comment il a été guéri. Le gars, il avait sa Bible sous la main. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa Bible, il l'a mis par terre, il a monté sur la Bible, il a dit « Je me suis appuyé sur la parole ». Et cette image, elle m'est toujours restée. C'est drôle, hein? C'est ridicule quelque part. Mais moi, c'est resté dans mon cœur et je me suis dit « Waouh, oui, c'est ça, il va falloir, Denis, t'appuyer sur la parole ». Et chaque fois que je m'appuie sur la parole, je pense à ce gars-là. Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors, en fait, ce texte s'appuie sur Isaïe 53. Isaïe qui a vécu 700 ans avant Jésus. Et dans ce texte-là, il nous explique vraiment qui est Jésus, ce qu'il a fait, comment il est mort, et c'était 700 ans avant. Extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut proclamer ça. Tu as un souci de santé, tu peux proclamer, rechercher cette promesse. Seigneur, tu dis que tu as pris mes infirmités, que tu t'es chargé de mes maladies, et toi, pourtant, là, je suis malade. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Est-ce que c'est pour moi ou c'est pour quelqu'un d'autre? Jésus va venir à vous. Il vous dit, mais non, c'est pour toi. Saisis-toi de la promesse. Prends-la. Si tu as fait ça, Seigneur, il y a 2000 ans, c'est pas pour n'importe quoi. Et alors, le diable, il sera toujours là à vous dire, t'as vu quel genre de chrétien t'es, toi? Hein? T'as déjà vu? Tu t'es déjà examiné un petit peu? T'es quoi comme chrétien, là? Qu'est-ce que ça fait l'autre soir, là? Hein? Il va te rappeler les dossiers, les vieux dossiers. Même des dossiers d'il y a 20 ans. Tu te rappelles ce truc-là? Waouh, t'es pas digne de ça. Et là, c'est à nous de nous placer devant lui et dire, va des rétros, Satanas. Je ne veux pas t'écouter. Je n'écoute pas ce que tu me dis. Ce que j'écoute, c'est ce que Dieu me dit. Il a pris mes maladies, mes infirmités. Alors dégage. Va ailleurs. Va-t'en. Et c'est ça la réalité. C'est comme ça qu'on s'appuie sur la parole. Nos inquiétudes. Le psaume 55 au verset 23 nous dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Ça, c'est un super verset, quoi. Hein? Parce que « Remets ton sort à l'Éternel », ça implique quand même quelque chose. Ça implique de dire « Ma vie, elle m'appartient plus du tout. Elle appartient à Dieu. De toute façon, elle ne m'a jamais appartenu, que je le veuille ou non. C'est lui qui m'a créé. Hein? » C'est comme nos enfants, hein, on dit nos enfants. C'est pas nos enfants, c'est les enfants du Seigneur qui nous a prêtés pour un certain temps sur terre, afin de les élever et de les enseigner dans la parole et qu'un jour ils puissent rencontrer le Seigneur. Ils sont prêtés. Même si le dernier de Toots a la même bouille que lui, un mini Toutzou, hein, mais il est prêté. Et Dieu nous fait la grâce d'imprimer des choses qui, voilà, on se ressemble, c'est super. Ça fait partie de l'amour de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est super, c'est vraiment bien. Hein? Mais il ne laissera jamais chanceler le juste. Ça, on peut s'appuyer aussi là-dessus. Quand tu vis des choses où tu te dis, wow, tout est en train de s'écrouler, je ne sais pas où je vais, quoi. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce que je vais faire? Tout est noirci devant. Tu te dis, wow, ça ne vaut même plus la peine, quoi. Seigneur, reprends-moi. Hein? Vous êtes déjà passé par des choses comme ça? Moi, je suis déjà passé par des choses comme ça. C'est arrivé quelques fois dans ma vie. Hein? Mais non, tu chancelles. Mais il est là, il va t'affermir sur tes pieds et te faire continuer. Philippiens, on connaît tous ce passage, Philippiens 4 au verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Le salut, Jean 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il dit, crois-tu cela? Est-ce que tu le crois? Alors peut-être parmi nous, il y a des gens qui ne sont peut-être pas encore vraiment installés dans la foi et qui peuvent se poser cette question-là. Est-ce que c'est juste ça? Mais si tu crois ça, tu ne mourras jamais. C'est Jésus qui le dit. Et une chose est vraie parce que le passage plus loin, je dis, Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui. Moi, j'ai vécu une période dans ma vie où j'avais vécu des choses assez extraordinaires avec le Seigneur. Puis ma vie a été chamboulée, transformée. J'étais, c'est un petit peu comme un jeu de quilles, quoi. Il y a une grosse boule qui a fait tout jeter, qui a tout là, j'étais la quille par terre. Puis bon, on se relève, on avance. Et je me posais la question, je me disais, mais pourquoi, Seigneur, est-ce que tu m'as rejeté? On peut se trouver toutes sortes de raisons et se dire, mais voilà, j'ai loupé ça, j'ai loupé ci, Dieu m'a rejeté, je suis inutile. Et ça, c'est vraiment une pensée diabolique. Parce que c'est vraiment pas une pensée du diable. C'est pas de Dieu, mais c'est vraiment une pensée du diable. Et c'est lui qui veut, encore une fois, nous détruire. Mais quand on connaît, on sait que Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui. Il peut toujours venir avec ses idées. « Ah, t'as vu comme t'étais, t'as vu ce que t'as fait, blablabla. » Tu dis, « Allez, va des rétro, bye bye. » Hein? Se positionner devant lui, quoi. La peur. La peur. Vous connaissez la peur? Hein? Ouais? Tout le monde connaît la peur? Hein? La peur, ça arrive, des fois, dans notre vie. Alors, le problème de la peur, c'est qu'elle nous paralyse. C'est que si tu as peur, tu es un petit peu figé, comme ça, tu ne sais pas trop où aller, comment avancer. Et c'est dramatique. Et la peur, elle vient aussi du diable. C'est aussi lui qui veut nous terroriser et nous tétaniser et nous bloquer dans nos projets, dans nos vies, dans ce que Dieu a mis devant nous. Parce que souvent, là, quand on doit faire un pas de foi, c'est jamais gratuit. Hein, pas de la foi, c'est se jeter dans le vide sans assurance. On vit dans une société où les gens peuvent pas vivre, enfin, à Madagascar un peu moins, mais si vous allez en Europe, tout le monde a des tonnes d'assurance, l'assurance vie, l'assurance voiture, l'assurance maison, etc., etc., parce qu'au cas où il arrive quelque chose, au moins il y a l'assurance derrière qui va répondre. Mais quand on fait un pas de foi, il n'y a aucune assurance, on se jette dans le vide, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Chaque fois que j'ai sauté dans le vide, qu'est-ce que j'ai été content. Je sentais Dieu qui me prenait par les épaules derrière et qui m'amenait là où je devais aller. Et je lui dis, waouh, Seigneur, c'est ta grâce. C'est extraordinaire. Tu es fidèle dans ce que tu dis. Et c'est la vérité. Proverbe 3, les versets 25 à 26. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Waouh ! C'est l'Éternel qui est ton assurance. l'éternelle assurance. On a une éternelle assurance. Peu importe de ce que les hommes veulent faire, moi j'ai une éternelle assurance. Hein, mais je ne me fais pas de soucis, moi. Je dis, Dieu a été fidèle jusqu'à présent et sera fidèle jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'il est mon assurance. Il a tout ce qu'il faut. Il est suffisamment puissant. Il a créé ce monde. Vous imaginez ? Et toi, tu te dis, aïe, 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 comment je vais faire ? Oh là là, c'est difficile. Si tu es en Christ, tu viens et tu dis, Seigneur, merci, tu es mon éternelle assurance et tu vas pourvoir à mes besoins parce que c'est ta promesse. Ce sont tes promesses. Et c'est au travers de ces promesses que Dieu nous aide à marcher et à conserver et à préserver notre foi. Alors, je pourrais aussi vous citer le psaume 27, le verset 1. C'est un psaume de David, et David savait de quoi il parlait. Hein. Il disait, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Et pourtant, lui, quand on voit, si on étudie un petit peu sa vie, ça n'a pas été toujours très drôle. Hein. C'est un gars courageux, hein. Il était courageux d'aller affronter Goliath. Il savait qu'il n'y allait pas tout seul, il allait avec l'Éternel. Mais quand il se retrouve devant Saül qui lui balance une lance et qui a failli l'embrocher, qui a été fiché dans le mur en face, il dit waouh ! Et il a dû sauver, courir et tout ça, il se cachait dans des grottes. Ouais, il a connu la peur, mais il dit des choses comme ça. Il dit voilà, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Puis il dit aussi quelque chose d'intéressant, c'est dans le psaume 4 au verset 8. Il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ah. Si ta sécurité dans ta demeure, c'est ton gardien, c'est pas grand-chose. Hein. Et j'ai rien contre les gardiens, ils sont sympas. Hein. Ils sont sympas, mais combien de fois tu sors en pleine nuit puis tu les vois ronfler, dormir, dire voilà, ils passent une bonne nuit, toi aussi. Mais s'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, quoi. C'est voilà. Hein. Mais heureusement, c'est l'Éternel qui me garde. C'est lui qui met la sécurité dans ma demeure. Hein. Nous, on le vit quand on va avec Angie ou Toz ou Jean-Christophe, quand on va sur le plateau du Bémara, où le docteur répare ceux qui ont ramassé des balles de fusil, et que toi, tu vas coucher dans une petite tente, ouais. Une petite toile de film, comme ça, tu te dis, il peut tout se passer pendant la nuit. Hein. Mais tu dis, bah non, c'est l'Éternel qui nous garde, et puis on s'endort, et on s'endort en paix, on dort bien, il y en a même qui ronflent. J'en connais, on ne citera personne. Eh ouais, c'est une réalité. Jésus nous met en face de la réalité. Dans Jean 16, au verset 33, il nous dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Hein? Ça, c'est une belle parole, quoi. Des tribulations, on en a tous. Je connais personne, aucun chrétien qui Si, je sais pas, peut-être que dans les églises de la prospérité, peut-être, non ?
Ouais,
peut-être, hein, là, jamais de problème. Hein. Mais nous, on passe par des tribulations. On passe par des tribulations. C'est une chose qui est sûre, mais c'est pas grave. Jésus a vaincu le monde. Hein. Donc, il dit ces choses pour qu'on ait la paix. Cette paix de Dieu, qui est comment ? Qui surpasse toute intelligence. Hein, c'est aussi dans le passage qu'on a vu, on ne l'a pas lu, mais voilà. Et une chose qui est importante, et qu'il faut vraiment qu'il soit sur notre cœur, c'est que ce que Dieu dit, il le fait. Il le fait. Ce n'est pas le cas des hommes. Hein. Il y a plein d'hommes qui disent, ils vous font des belles promesses. Combien de fois j'ai entendu, c'est, je rentre en France et puis on va montrer un petit peu le travail qu'on fait en brousse ou ailleurs. Et puis, les gens dans l'émotion, ils sont là, ils sont sympas, les gens. Et je suis sûr que ça vient du cœur, que c'est voilà. je suis sûr que c'est comme ça, mais... Ah oui, ah ben, là, on a un truc, on l'attend toujours. Je sais pas, j'étais dans le Nord et on rencontre un gynéco. Et il dit, ah, Denis, je vais te trouver une valise, une machine, un échographe, que tu pourras même prendre en brousse avec ton médecin, etc. Et je dis, bah, super, génial, c'est vraiment sympa, quoi. Hein? Et moi, dans ma tête, je me disais, je vais recevoir l'échographe. Hein? Bon, j'attends encore. Hein? Il n'est toujours pas là. Peut-être qu'il arrivera un jour. Peut-être qu'il arrivera un jour. On ne sait pas, mais... Voilà, voilà, on va garder la foi. Hein? Mais Dieu n'est pas comme ça. Ce que Dieu dit, il le fait. Et il le fait toujours. Hein? Nombre 23 et le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? C'est la parole qui le dit. Et c'est vrai. On peut tous l'expérimenter. Ce que Dieu dit, il le fait. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. C'est déjà fait. La Bible dit même qu'on est déjà assis dans les lieux célestes avec lui, avec le Christ. Alors ça, c'est quelque chose qui dépasse complètement ma pensée humaine. Mais je sais que ses voix ne sont pas mes voix, que ses pensées ne sont pas mes pensées, et que moi, je ne suis pas grand-chose. Et que, voilà. Mais Dieu sait tout ça parfaitement. Est-ce que vous croyez que Dieu parle en vain? En vain. En vain. Pas en vain. Pas en vain, V-I-N, hein. En vain, V-A-I-N. Ça veut dire, croyez-vous que Dieu parle simplement pour dire des paroles comme ça, que Dieu balance des paroles en l'air, il ne pense pas à ce qu'il dit, il s'en fiche et tout ça? Non, quand Dieu parle, il parle vraiment. Hein? Pensez-vous qu'il s'amuse avec nos émotions? C'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que Dieu s'amuse avec nos émotions? Est-ce qu'il aime à nous voir tourmentés, d'être dans la joie, puis retourmentés et tout ça? Non. Dieu joue pas avec nous. Non. Mais quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et ce que Dieu dit, c'est toujours pensé. C'est pas des paroles vaines, mais ce sont vraiment des paroles sur lesquelles on peut réellement s'appuyer. Puis, le proverbe 12 au verset 22 nous dit quand même quelque chose d'important. Le mensonge est quelque chose dont il a horreur et qui n'existe pas dans son royaume. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, il est écrit. Les lèvres fausses. Waouh. Et ça, ça nous fait réfléchir aussi. Comment fonctionnons-nous? Est-ce que on est toujours juste? Est-ce que on accepte des petits mensonges? C'est facile à tester. Vous savez, moi je vois bien comment ça se passe. On a des machines, des trucs comme ça. Une machine est cassée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais pas. C'est pas moi. Alors, bah, mais pas simplement si. J'ai fait partie d'un aéroclub en Europe pendant des années et des années. Et les gars prenaient un avion, ils rentraient, ils avaient cassé la poignée, ils avaient cassé un truc ou l'autre. Ils ne disaient rien. C'était énervant. Alors que... si tu casses quelque chose, ben ça peut arriver. Hein. Il y a des tas de gens qui montent là-dedans, c'est fragilisé, et puis tu prends la poignée de la porte, oh, tu te restes dans les mains. Tu te dis, mince, tu ne la mets pas sur ton siège, puis tu ne t'en vas pas discrètement en disant, j'ai rien vu. Hein. Il y a eu même des cabosses un peu plus graves que ça, que les gars n'ont jamais vraiment dit. Donc, je veux dire, voilà. À nous de réfléchir, d'être responsable. Et puis, si j'ai cassé quelque chose, c'est pas la peine de dire un mensonge. Tu as déjà fait une bêtise, en plus tu vas refaire une deuxième bêtise, dire un mensonge. Non, c'est pas correct. Voilà, je vais pas vous embêter encore bien bien plus longtemps, on arrive à la conclusion. Donc Philippiens 4, on l'a lu tout à l'heure, dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, c'est de connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Donc c'est bien de dire à Dieu nos soucis, nos problèmes, de prier, de vraiment lui montrer et de le remercier, de dire « Seigneur, je sais que tu as tout entre tes mains et que mon souci, tu es capable de le régler. » Et moi, dans ma vie, tous mes soucis, tous mes grosses difficultés, Dieu les a toujours réglées. Dieu les a toujours réglées, d'une manière ou d'une autre. Hein? Et ça, c'est bien parce qu'il dit, si tu fais ça, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quelle puissance, la parole. Hein? Ah, les lamentations. On vient à Jérémie. Jérémie qui se lamentait, il se lamente hein, quand on lit les passages, il en bave quand même le pauvre. Hein. Mais au chapitre 3, les versets 21 et 22, il nous dit ça. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Waouh. Pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Voilà. Dieu a des réserves pour chacun de nous, dans nos problèmes, dans nos difficultés. Nahum, on ne lit pas souvent ce livre-là, hein. Nahum, le chapitre 1 au verset 7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Il est bon, c'est un refuge pour ceux qui sont dans la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Il nous connaît, si nous nous confions en lui. Il connaît exactement tout de notre vie, rien n'est caché. Il connaît nos cœurs, de long en large, en travers. Il connaît toutes choses. Et c'est une joie de savoir ça. Qu'est-ce que c'est réconfortant, qu'est-ce que c'est une paix. Donc voilà, alors ce qu'on a vu là, en l'espace d'une petite demi-heure, c'est qu'une petite partie des promesses que Dieu veut nous donner. Si tu as un souci particulier, prie, prends la parole et Dieu va te parler au travers d'elle. On dit que la parole est vivante et elle est vraiment vivante. Elle est capable de nous parler, de parler à nos cœurs et de nous donner la bonne parole qui va nous apaiser, qui va nous faire avancer, qui ne va pas nous détériorer. Amen. On va prier, on va finir par là. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole est la vérité. Parce qu'on peut s'appuyer sur elle. C'est au travers d'elle, Seigneur, que nous avons grandi au travers de toutes ces années. C'est en toi que nous sommes en sécurité. Merci de nous faire la grâce de continuer et d'être des fidèles gardiens de ce trésor que tu as mis dans nos cœurs, la foi, afin que lorsque le jour arrivera, nous puissions réellement partir avec toi. Que nous puissions dire, comme Paul le disait si bien, que nous avons combattu le bon combat, que nous avons achevé la course et que nous avons gardé la foi. Seigneur, c'est ma prière pour chacun de nous ici, ce soir. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci pour la semaine que tu places devant nous, parce que tu veux encore te glorifier, te manifester, faire de nous des enfants que tu veux que nous soyons. Merci Seigneur pour ce que tu mets dans nous.